France Inter, le 7-9, intervenez.
Benjamin nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Benjamin, Henri Guénaud vous écoute.
Bonjour messieurs, je vous appelle parce que moi je serais bien allé voter à la primaire de la droite si vous aviez été accepté. Comment vous expliquez que vous n'avez pas eu vos parrainages, dans la mesure où moi je ne vais pas les voter, puisque c'est soit un bigot, le seul candidat qui est un petit peu anti-libéral, c'est un bigot poisson, là. Sinon, c'est tous une purge libérale absolue à faire retourner Margaret Thatcher dans sa tombe.
Et comment hop, ça se fait des candidats pas... rhabillés pour l'hiver.
Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un candidat à droite, comme vous, qui soit social, qui ait une projection sociale et économiquement viable de la France?
Henri Guénaud.
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est comme la conversation de tout à l'heure. Parce que tout le système est fait pour l'empêcher. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous savez, soit vous avez un clan de notables et lui-même, les notables font les parrainages et ils en font d'autant plus, beaucoup plus que ce dont ils ont besoin pour étouffer les petits candidats. Et puis, enfin, les petits candidats, ceux qui n'ont pas de clan de notables, soit on détient l'appareil ou des perspectives importantes qui permettent de faire pression, soit de faire des promesses notamment aux parlementaires. Moi, j'ai vu mes parlementaires repartir, tous ceux qui étaient prêts à signer pour moi, repartir les uns après les autres.
Pas d'investiture.
Les gens, on fait de l'intimidation sur les investitures. Pour les autres, on fait des promesses de gouvernement. Je pense qu'on doit avoir, après ces primaires, on doit avoir 15 à 20 gouvernements déjà tout prêts. Hein. C'est... Tout ça et humain sont les vieilles, vous savez, c'est la vieille politique des vieux partis, voilà, qui revient périodiquement.
Henri Guénaud, quand on regarde vos propositions et les propositions des candidats qui vont s'affronter dans les urnes à droite le 20 novembre prochain, en matière d'économie, oui, c'est quasiment l'inverse. Là où les candidats Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon promettent des plans d'économie en gros à 100 milliards d'euros, vous dites l'inverse, relance par l'investissement, relance par le pouvoir d'achat, on creuse la dette, tant pis, votre parti finalement est devenu libéral et pas vous.
Oui, on sait même plus du libéralisme, tout ça, la plupart du temps ne tient pas debout, cette espèce de pensée unique, d'orthodoxie qui tient lieu de politique et qui tient lieu de pensée. Voilà, remettant les choses à leur place. Moi, j'ai été très frappé pendant le débat des candidats à la primaire, de leur volonté de réduire absolument les effectifs de la fonction publique ou du secteur public. Seulement, voilà, ils raisonnent tous, et c'est un raisonnement classique dans nos représentations de l'économie. Ils sont tous comme si nous étions en plein emploi. Hein? Alors, quand vous êtes en plein emploi, quand vous supprimez un emploi dans le secteur public, ben, vous libérez un emploi pour le secteur privé. Donc, tout ça, si l'emploi dans le secteur privé est plus productif, tout ça peut améliorer les choses. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez du chômage de masse, quand vous supprimez un emploi dans le secteur public, vous ne créez pas automatiquement un emploi dans le secteur privé. Bon, donc ce raisonnement est absurde, de même qu'il est absurde de ne pas investir massivement dans une période où les taux d'intérêt sont aussi bas dans le monde. Vous savez ce qui se passe? Moi, ça m'a frappé aussi. On a réussi à parler d'économie sans parler de la situation macroéconomique du monde, sans parler de la finance, sans parler de la politique commerciale, de la politique industrielle, de la commande publique. Rien.
Ben oui, il y avait l'islam et le burkini.
Rien. Non, mais quand on a parlé d'économie, on a parlé de quoi? Oui. Suppression des postes de fonctionnaires et économie. Voilà. Bon, et éventuellement baisse des impôts pour certains d'entre eux. Mais c'était extraordinairement frappant, cette façon d'aborder les questions. C'est quoi? On va redresser la France simplement en supprimant les 35 heures, c'est-à-dire dans le secteur privé, hein. Le secteur public est un autre sujet, mais c'est-à-dire juste en supprimant la surrémunération des heures supplémentaires. C'est en diminuant le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent plus, mais je croyais qu'on était pour travailler plus pour gagner plus. Mais bientôt, on va avoir travaillé plus pour gagner moins. C'est quand même fantastique.
Bon, sur l'Europe, vous ne vous retrouvez pas dans votre parti.
Mais
sur l'économie, vous ne vous retrouvez pas dans
on
votre
a réussi
parti.
À parler de l'économie.
Qu'est-ce qui vous reste de commun avec les Républicains, Henri Guénaud?
Ah ben avec les militants et les adhérents, beaucoup. Avec beaucoup de notables, pas grand-chose. Voilà. Mais on peut parler de l'économie, on peut parler de la démocratie sans parler de l'Europe. C'est possible. C'est possible.
Irène nous appelle, Henri Guénaud, d'un département
que
vous
pas.
Connaissez bien. Bernard Guetta va poser une question dans quelques instants. Irène nous appelle des Yvelines. Bonjour Irène, bienvenue. Henri Guénaud vous écoute.
Oui, bonjour Monsieur Guénaud et bonjour à toute l'équipe de France Inter. Bon, petite question polémique. Pourriez-vous nous dire qui écrit et pense désormais pour Monsieur Sarkozy, en fait, qui vous a remplacé et qui a remplacé Monsieur Buisson? Merci beaucoup.
Merci Irène. Henri Guénaud.
Ah, ben écoutez, ça, je vous laisse le soin de poser la question à Monsieur Sarkozy.
Vous avez été remplacé? Ah, mais dans le logiciel pas, Sarkozy.
D'abord, cher ami, je pense que je suis irremplaçable.
Voilà. C'était pour vous tendre la perche.
C'était la phrase d'Edgar Faure à propos du secrétaire général de l'éducation nationale. Il avait dit, monsieur X, qui était secrétaire général, est parti, il ne sera pas remplacé, parce qu'il est irremplaçable.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui des conseillers qui soufflent à l'oreille de Nicolas Sarkozy, dont on a parfois du mal à comprendre la ligne? Prenez le dernier exemple en date, c'est celui du Nini. Que ferait Nicolas Sarkozy en cas de duel de second tour entre Marine Le Pen et François Hollande? Jusqu'à présent, sa logique, son logiciel, c'était ni l'un ni l'autre. Et depuis la semaine dernière, il a changé. Finalement, il nous explique qu'il voterait François Hollande, même si ce serait en se bouchant le nez. Vous le comprenez ou pas?
Alors, d'abord, je comprends que l'élection présidentielle, c'est pas la même chose que les élections législatives, cantonales ou municipales.
Ouais, le Nini reste en vigueur dans l'esprit de Nicolas Sarkozy pour les élections locales, mais pas pour la présidentielle.
J'aime pas l'expression Nini. Moi, je suis contre le Front Républicain, je l'ai toujours été, parce qu'on ne peut pas, dire aux électeurs du Front National, quand ils sont 30% du corps électoral, quoi que vous fassiez, de toute façon, nous ferons en sorte, les politiciens normaux et républicains, que votre vote n'ait jamais aucune influence, aucune conséquence. Ça, c'est une marque de mépris qui ne va pas ramener les électeurs dans le giron des grands partis de gouvernement. Et deuxièmement, les gens n'écoutent plus du tout les consignes de vote, donc c'est pas la peine d'en donner. Alors, à titre personnel, que Nicolas Sarkozy dise pour les élections présidentielles, je préfère voter Monsieur Hollande que voter Madame Le Pen, ça peut se comprendre.
Alors, et vous ?
Évidemment, c'est difficile à expliquer. Non, moi, j'ai aucune envie de me prononcer aujourd'hui sur cette question. Voilà, je ne suis soupçonnable d'aucune sorte d'accommodement avec le Front National, mais franchement, si c'est ça le débat politique...
Vous aviez dit il y a quelques mois que vous pourriez travailler à l'occasion avec
vous,
Marion Maréchal Le Pen.
Pas vous, pas ça. Madame Marion Maréchal Le Pen avait dit, moi je pourrais travailler avec Monsieur Millard, Monsieur... je sais plus...
Dupont-Aignan, je crois.
Oui, Dupont-Aignan, je sais plus qui encore, et puis moi. Et on m'avait posé cette question, et j'avais dit, moi, s'il s'agit de faire un rapport parlementaire avec Madame Marion Maréchal Le Pen, de travailler dans des commissions, je suis évidemment prêt à le faire, comme je le ferai avec le président du groupe communiste, ou du groupe socialiste, ou de n'importe qui, de n'importe quel bord. S'il s'agit de travailler dans un gouvernement, évidemment non, dans une majorité, évidemment non. Voilà, les choses sont claires. Ce qui serait bien, d'ailleurs, dans le débat public, c'est qu'on évite les caricatures et que lorsque les gens répondent à une question, eh bien, on rapporte leur réponse en totalité, parce que dire je suis prêt à travailler.
C'est ce que j'ai dit, hein, prêt à travailler dans le cadre d'un rapport ou d'une loi.
Mais la plupart du temps, c'est vous êtes prêt à travailler avec Madame Le Pen. Non, je suis prêt à travailler dans le cadre parlementaire parce que je considère que c'est mon devoir de travailler avec tout le monde.
Henri Guénaud, question de Bernard Guetta.
Vous indignez à l'instant que tous les candidats à la primaire de la droite soient aussi lourdement libéraux et partisans d'économie.
C'est même pas du libéralisme.
Oui, justement, partisans d'économie de coupe-son. Comment expliquez-vous qu'ils le soient alors que aujourd'hui le FMI, la Commission européenne, la quasi-totalité des économistes, y compris libéraux souvent, prônent comme vous, une relance par la dépense budgétaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire de la droite française, là ?
Le manque de travail, la plupart des responsables politiques ne sont omnubilés que par leur réélection, c'est-à-dire qu'il faut être élu, puis on verra après. Donc, on dit ce qu'on a l'impression qu'il faut dire, et puis voilà.
Ils ont bossé, il y a des vrais programmes,
non,
Fillon, Juppé, il y a des vrais programmes.
Non, ils n'ont pas travaillé. Quand même, comment pouvez-vous travailler sur l'économie sans ouvrir le débat sur la situation du monde, d'abord? Ce sont les mêmes qui vous expliquent que vous ne voyez jamais le monde comme il est, mais eux, où est le monde dans leur programme? Or, aujourd'hui, quelle est la situation de l'économie mondiale? Un excès d'épargne considérable et un déficit d'investissement. Voilà. Bon, ça explique d'ailleurs...
Alors, ils sont complètement idiots pour ne pas voir cette réalité?
Ça explique d'ailleurs que les taux d'intérêt, par exemple, soient si bas, pas seulement à cause des politiques monétaires, mais aussi à cause de ça. Beaucoup d'entre eux, il y a encore quelques temps, expliquaient que la monnaie n'avait aucune importance, que le fait que l'euro soit fort ou faible n'avait aucune importance. Et quand on s'est retrouvé au bord du gouffre déflationniste, ils n'ont pas vraiment changé d'avis. Heureusement que M. Draghi était là. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un manque de travail. On se retrouve dans la même situation au fond que les spécialistes de la question militaire dans les années 30, hein, qui vous expliquaient que, bon, c'était pas grave, les chars allemands passeraient pas par les Ardennes, c'était des gens très intelligents, ils avaient gagné une guerre. Bah, ils ont perdu la suivante. Monsieur Laval en 1935, qui non seulement dit la déflation plutôt que la dévaluation, mais répond aussi à la commission de la défense du Sénat qui lui demande d'augmenter les crédits militaires. Je le voudrais bien, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La situation financière de la France ne le permet pas. Et quand vous voyez ça avec le recul, vous êtes effrayé parce que c'est exactement la façon dont nous raisonnons depuis des années. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences désastreuses de ce raisonnement.
Frédéric Mettezo.
Les échanges sont de plus en plus violents entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sur la question du centre. Alain Juppé souhaite gouverner avec le centre de François Bayrou. Nicolas Sarkozy n'en veut pas. Qui a raison? Est-ce qu'il faut s'enfermer, comme le fait Nicolas Sarkozy, sur le précaré droite-droite, ou est-ce qu'il faut ouvrir vers le centre façon Alain Juppé? Un peu, tiens, comme le général de Gaulle en 1958 avec le MRP et les socialistes.
En 58, il a ouvert à tout le monde. Justement. Comme en 1944, d'ailleurs, parce que la situation l'exigeait, ça n'a pas duré longtemps. Il s'agissait d'empêcher la guerre civile. Ouais. On n'était pas dans la situation d'aujourd'hui,
et
même si elle est très grave. Très grave. Je crois qu'il faut surtout arrêter de... Les deux stratégies ne me paraissent pas bonnes. Ce sont deux stratégies arithmétiques. C'est-à-dire deux stratégies où on prend les parties, les morceaux de parties, et puis on essaie de les coller ensemble. C'est quand dans une élection présidentielle, on doit s'adresser au peuple français tout entier. Puisqu'on aspire, quand on aspire à être président, à être l'homme de la nation. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas gagner avec une partie de votre camp. Vous ne pouvez même pas gagner avec votre camp. Vous êtes obligé de toute façon de récupérer des voix qui vont bien au-delà des frontières partisanes, fussent-elles élargies. Voilà.
Pas le discours de Nicolas Sarkozy. C'est droite-droite et...
Non, mais là, c'est droite-droite parce que... Mais ça, c'est la perversion des primaires. Voilà, c'est la perversion des primaires. La primaire fabrique le candidat d'un camp. Alors, ce camp, il peut être défini, comme le fait Alain Juppé, par l'adjonction des centristes, du MoDem et des Républicains.
Et des déçus du hollandisme, comme il l'a dit.
Mais bien sûr, mais de toute façon, enfin, on peut pas exclure dans une élection présidentielle qui que ce soit. Si vous ne récupérez pas les voix des déçus de ceux qui ont voté pour celui qui a eu la majorité aux dernières élections, vous avez aucune chance de toute façon d'être élu. Et c'est très bien ainsi. C'est pour ça que les primaires sont un non-sens du point de vue de l'esprit des institutions. Si on veut fabriquer l'homme de la nation, celui-ci doit s'adresser à la nation.
Henri Guénaud.